Les cours du Collège de France, Nalini Anantaraman, chère géométrie spectrale.
Alors, bonjour à tous. Donc les dernières fois, on a surtout parlé de spectre du Laplacien et décroissance des corrélations du flot géodésique sur les graphes réguliers. J'ai pas tout à fait fini de dire ce que je voulais dire, mais comme on va au séminaire, on va avoir deux exposés qui portent sur les surfaces hyperboliques. On va peut-être faire une pause sur les graphes et parler un peu de surface hyperbolique. Peut-être tout à l'heure, je ferai un petit complément sur les graphes réguliers, mais voilà, selon un petit peu le... Alors, je vais faire quelques rappels, mais qui sont des choses très classiques sur le flot géodésique des surfaces hyperboliques. Alors, pour les dessins, je travaillerai tantôt avec le modèle du demi-plan Poincaré, hein, qui est l'ensemble des nombres complexes de parties imaginaires strictement positives et muni de la métrique dx carré plus dy carré sur y, ou avec le modèle du 10 de Poincaré, qui est l'ensemble des z, des nombres complexes z de modules strictement plus petits que 1, muni de la métrique, alors il y a un 4, dx carré plus dy carré sur 1 moins x2 moins y carré. J'ai un grec carré là. Sachant que les deux sont isométriques, on peut passer de l'un à l'autre, alors on n'aura pas forcément. L'isométrie entre les deux, c'est la transformation de Möbius qui à z associe iz plus 1 sur z plus i, par exemple. Donc les deux modèles sont isométriques. Et puis je vais m'intéresser, un petit peu comme ce qu'on avait fait les séances précédentes pour les graphes réguliers, je vais m'intéresser au flot géodésique sur une surface hyperbolique compacte. Orientable. Qu'on peut voir comme le quotient du demi-plan de Poincaré par gamma, et gamma va être un sous-groupe du groupe d'isométrie directe du demi-plan de Poincaré, qui doit être supposé, on doit supposer qu'il agit librement et proprement discontinuement si on veut que le quotient soit une surface sympathique. Proprement discontinuement. Et le flot géodésique, ça va être un système dynamique qui est défini sur le fibré unitaire tangent de la surface M, qui est aussi le quotient du fibré unitaire tangent de H par l'action du groupe gamma. Et donc, je vous rappelle que, alors là, je fais le dessin, je vais faire les deux dessins, je vais faire le dessin dans le modèle du disque et dans le modèle du demi-plan. Les géodésiques, hein, dans le modèle du 10, ce sont les cercles orthogonaux au bord. Et le flot géodésique, c'est le système dynamique qui consiste à... La donnée initiale, c'est un vecteur tangent. Et puis, on le... Si je me donne un vecteur tangent V en un point X, je suis la géodésique engendrée pendant un temps T. Et ça, je vais continuer à le noter sigma comme on avait fait sur le graphe. Sigma, donc au temps T, on a déplacé le vecteur en suivant la géodésique pendant un temps T. Et puis dans le modèle du demi-plan, les géodésiques, ce sont soit les cercles, les orthogonaux au bord, ou soit les droites orthogonales au bord. Donc, on a un système dynamique à temps continu maintenant. Il va du fibré unitaire tangent dans lui-même sur le demi-plan Poincaré et puis qui passe au quotient comme gamma agit par isométrie, hein, sigma t agit aussi sur le fibré unitaire tangent de M. Et puis la propriété de flot, je vous rappelle que ça veut dire que sigma t plus s, donc suivre la dynamique pendant le temps t plus s, c'est la même chose que la suivre d'abord pendant le temps s, puis pendant le temps t. C'est ce qu'on appelle un flot. Et puis je vais rappeler la structure de le flot géodésique sur les surfaces hyperboliques. Il a une structure particulière. Alors, ce qu'on appelle les orocycles. Donc au départ, ce sont des courbes dans le demi-plan Poincaré qui sont les lignes de niveau des fonctions de Boosmann. Alors quand on a un point sur le bord à l'infini, alors je vais plutôt peut-être faire le dessin pour le disque, quand on a un point sur le bord, oméga, à chaque point du bord est associé ce qui s'appelle une fonction de Boosmann, qui est une fonction sur le disque, et qu'on peut voir, entre guillemets, ça c'est la fonction de Boosmann centrée en oméga, et entre guillemets c'est la distance de x à oméga moins la... Alors il faut se fixer une origine pour normaliser toutes les... Donc on va prendre par exemple le point 0 comme origine ici, qui correspond ici au point i. Donc moralement, hein, donc on se fixe une origine qui sert à normaliser ces fonctions de Boosmann. Donc c'est la différence entre la distance de x à oméga et la distance de x à 0. La distance de 0 à oméga. Et la vraie définition, c'est la limite quand y tend vers le bord, tend vers oméga, de la distance entre x et oméga. Non, la distance de x, y, moins la distance de 0 à y. Et les lignes de niveau, on peut montrer que c'est des cercles qui sont tangents au bord. Donc ça, c'est les orocycles centrés en oméga. Et à partir de ces orocycles, on voit apparaître les variétés stables et les variétés instables pour le flot géodésique. Donc maintenant, supposons que je m'intéresse à cette géodésique-là qui est dessinée ici, avec sa condition initiale, qui est le vecteur que j'ai appelé état. Donc maintenant, si je dessine tous les vecteurs orthogonaux à cet orocycle, celui qui passe par x, j'obtiens une courbe. Maintenant, cette famille de vecteurs, c'est une courbe dans le fibré unitaire tangent de H, qui s'appelle la variété stable de état parce que toutes les géodésiques correspondantes convergent. On l'a même se rapproche exponentiellement vite quand t tend vers l'infini de la géodésique passant par état. Donc les variétés stables. Voilà, j'ai changé à peu près 3 fois de notation dans mes notes. Le signe moins, je vais l'associer aux variétés stables et le signe plus aux variétés instables. Je vais essayer de m'y tenir. Donc, la variété stable pour associer à la condition initiale état, c'est l'ensemble des vecteurs unitaires tangents tels que la distance entre sigma t eta et sigma t de eta prime tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc c'est la variété stable, ça correspond à cette courbe dans le fibré unitaire tangent qui est dessinée ici. Tout. Et puis on a de la même manière une variété instable qui est obtenue en prenant, il faut maintenant considérer l'eurocycle et son trait, dans le point en plus l'infini, mais dans le point en moins l'infini, donc on prend cet eurocycle-là. Là, maintenant, j'obtiens une autre courbe tracée dans le fibré unitaire tangent qui correspond à des géodésiques qui sont asymptotes à la trajectoire de état, mais en temps négatif. Donc c'est, je vais noter W plus de θ, c'est l'ensemble des vecteurs d'un fibré unitaire tangent, tel que la distance entre les deux trajectoires tend vers 0, mais cette fois-ci quand t tend vers moins l'infini. Donc là, j'ai présenté les choses dans le disque de Poincaré, mais tout passe au quotient. Comme tout est défini en termes de distance, cette notion de variété stable et instable passe au quotient dans le fibré unitaire tangent de notre surface compacte. Et donc on obtient en chaque point une variété stable, une variété instable qui forment chacune le feuilletage stable et le feuilletage instable pour le flot géodésique. Et on a même ce qui s'appelle le flot orocyclique. Alors il y a deux flots orocycliques, hein, il y a le flot orocyclique stable et le flot orocyclique instable. Alors, mon dessin n'est pas très grand, je ne sais pas si... je vais essayer de le reprendre en plus grand. Donc, si j'ai mon vecteur eta, voilà sa variété stable. Et donc, j'ai le flot géodésique qui transporte comme ça, le flot orocyclique, il consiste au contraire à se déplacer... se déplacer à vitesse 1 mais le long de la variété stable, donc je vais l'appeler H taux moins. Donc, si je me déplace de taux, j'appelle ça H taux. Donc, et puis j'ai le flot orocyclique instable qui fait la même chose mais le long de la qui consiste à se déplacer le long de la variété instable à vitesse unitaire. Et là, dans ce cadre, très simple d'un espace symétrique, on a vraiment des relations exactes. Alors, le flot géodésique et le flot orocyclique, ils sont reliés de la manière suivante. J'essaie d'écrire les choses dans le bon ordre. Donc si je me déplace de taux dans la direction stable, puis de t dans la direction du flot géodésique, c'est la même chose que se déplacer d'abord de t dans la direction du flot géodésique, et puis de taux exponentiel moins t dans la direction stable. Et ça revient à dessiner un petit rectangle comme ça. Donc ici j'ai taux, ici j'ai t, et ici j'ai taux exponentiel moins t. Et puis dans la direction instable, j'ai la même chose, mais le exponentiel moins t devient un exponentiel plus t. Donc j'ai deux fluorocycliques, j'ai le stable et le instable. Donc ça, c'est une présentation un peu géométrique du flot géodésique qui a un analogue tourné en courbure variable. Là, l'espace hyperbolique, hein, il s'agit de variétés de courbure constante égale à moins 1. Cette présentation géométrique, elle peut s'étendre à des espaces de courbure négative variable. Par contre, je veux aussi beaucoup travailler avec la version algébrique de ces flots et qui, elle, ne marche que quand on est sur un espace localement symétrique. Donc, voilà, tous ces dessins que j'ai présentés sous forme géométrique, on peut aussi, ils ont aussi une version où on ne parle que d'action de groupes d'opérations dans des groupes de Lie. Alors en fait, les isométries directes du plan hyperbolique s'identifient au groupe de Lie PSL de 2R, parce que si j'ai une matrice, donc PSL de 2R, c'est les matrices de 2 de déterminant 1 modulo plus ou moins l'identité. Donc si j'ai une matrice de déterminant 1 à BCD à coefficient réel, elle définit une transformation de Möbius sur le demi-plan, c'est la AZ plus B sur CZ plus B. Donc, faut d'abord, c'est des choses assez classiques, il faut vérifier que c'est bien une isométrie, que ça préserve bien le demi-plan Poincaré et que c'est bien une isométrie. Toutes les isométries sont de cette forme-là, et que voilà, ça, en fait, c'est un isomorphisme de groupe. Hein, au lieu de parler du groupe des isométries, on peut parler de PSL de 2R. Et en fait, et le stabilisateur du point que j'avais pris comme origine, qui est le point I, c'est SO2. Et puis l'action. Donc en fait, le demi-plan de Poincaré, on peut l'identifier au quotient PSL de R, quotienté par SO2. D'accord, parce qu'on a une action transitive et puis on connaît le stabilisateur. Et puis, on peut aussi faire agir PSL de R sur le fibré unitaire tangent, juste en prenant la différentielle de l'action précédente. Alors, si j'ai maintenant une matrice G, une matrice de 2, et je veux la faire agir sur un couple formé de un point et un vecteur. Sur le point, je fais agir par la transformation de Möbius que j'ai décrite précédemment. Ça, c'est G agissant sur Z. Et puis sur le vecteur, alors mon vecteur, c'est un élément de R2, mais que je peux voir aussi comme un nombre complexe. Sur le vecteur, je vais prendre la dérivée au sens complexe de cette transformation, multipliée par V. Donc c'est l'action dérivée. Et si on fait le calcul, ça revient à multiplier V par 1 sur CD plus Z au carré. Et cette action-ci, c'est aussi quelque chose qu'on démontre, hein, qu'elle est libre, elle est à la fois libre et transitive. Ce qui fait qu'on peut identifier, le fibré unitaire tangent au biplan de Poincaré au groupe de Lie PSL2R, simplement en disant que j'identifie, je regarde l'orbite, par exemple, en général, on prend l'orbite du point I. Et puis, alors ça c'est pour H, et puis la surface M, on va pouvoir l'écrire comme un double quotient. H, c'est le demi-plan de Poincaré, c'est PSL2R quotienté par SE2. Et puis ça c'est une action qui était à... Alors je trompe toujours entre la droite et la gauche, donc vous remarquerez probablement que je dis des choses à l'envers. C'est une action à droite, et puis l'action gamma... Donc l'action du groupe d'isométrie, c'est à gauche. Donc maintenant, gamma, je le vois comme un sous-groupe de PSL2R. Et puis son fibré unitaire tangent, c'est le quotient de PSL2R. Toujours à gauche par l'action du sous-groupe gamma, voilà, vu maintenant comme sous-groupe de PSL2R. Alors, propriétés, que je ne vais pas démontrer, hein, qui sont des choses classiques. Mais enfin, pour les étudiants, si vous pouvez venir me demander après le cours, hein, si c'est des choses que vous ne connaissez pas, c'est que si on fait cette identification, le flot sigma t, ça devient... Donc, sigma t agissant... Ça devient la multiplication à droite par le groupe des matrices diagonales, donc paramétré comme ça. Donc A puissance T, c'est la matrice diagonale, exponentielle T sur 2, exponentielle moins T sur 2. Donc, ce qu'il faut, si on veut le démontrer, hein, ce qui suffit de démontrer, c'est que si je fais agir cette matrice sur mon vecteur, donc I, le vecteur I, c'est le vecteur qui part de l'origine et qui pointe vers la verticale. Si je fais agir AT là-dessus, il faut vérifier que je suis bien la géodésique correspondante. Il faut juste faire le calcul. Et ça, je vais appeler grand A. Donc A puissance T, c'est exponentielle TA. Et donc le générateur infinitésimal de ce sous-groupe à un paramètre là, de PSL2R, c'est, je vais l'écrire, c'est le 1 demi de la matrice diagonale 1 moins 1. Alors, le flot orocyclique stable, celui que j'avais appelé H- un disto, ça devient, sous cette identification, ça devient, à chaque fois, ça devient la multiplication à droite par la matrice 1, taux 0, 1. Donc là, le dessin, il est comme... Je vais faire le dessin dans le point, point carré. Donc, à chaque fois, pour le montrer, il suffit de vérifier que c'est bien vrai si je fais agir sur le vecteur II. C'est celui que j'ai choisi pour faire cette identification. Donc, pour le flot géodésique, on a cette trajectoire. Pour ce vecteur-là, il faut vérifier que si on fait agir cette matrice, on se retrouve bien avec cette courbe-là, qui est l'eurocycle stable correspondant. Oui, j'ai pas précisé, mais dans le dessin du demi-plan de Poincaré, hein, les eurocycles qui sont centrés en l'infini, ce sont des droites horizontales. Et puis enfin, le flot eurocyclique instable, ça revient à multiplier par le groupe des matrices triangulaires, mais inférieures, et avec des 1 sur la diagonale. Et ça fait ce dessin-là. Ça veut dire que je me déplace comme ça. Alors là, H-tau, c'est son générateur infinitésimal. Je vais le noter N-. Donc N-, c'est la matrice 0, 1, 0, 0. Et puis le H+, c'est exponentielle tau n plus. Donc le générateur infinitésimal de ce groupe à un paramètre, c'est 0, 1, 0, 0. Puis en fait, donc ces relations de commutation sur les flots, elles se traduisent par des relations sur les crochets de lit de ces matrices. Si c'est dans le bon sens, vérifiez que j'écris dans le bon sens, mais ça doit être que le crochet de lit entre N- et A, c'est moins 2 N-. Non, il n'y a pas le 2. Si j'ai mis. Oui. Si je mets le 1/2 là, il n'y a pas de 2. C'est juste moins n moins. Et puis le crochet de lit entre n plus et a, c'est plus n plus. Donc ça traduit de manière infinitésimale cette relation-là. Et puis peut-être ce que je dois dire au niveau notation, hein, c'est que ben, bien sûr, du coup, l'algèbre de Lie de SL2, elle agit sur les fonctions en dérivant dans la direction de ces flots. Hein, donc par exemple, je peux faire agir A sur une fonction F, si F c'est une fonction sur le fibré unitaire tangent. Là-dessus, je peux faire agir l'algèbre de Lie du groupe SL2, donc AF, ça va être la dérivée de F au temps nul, au temps zéro, dans la direction du flot géodésique. Et puis de la même manière, je peux faire agir N+ sur les fonctions et N- sur les fonctions. Donc N- N+ de F, ça va être la dérivée de la fonction F dans la direction du flot eurocyclique instable, par exemple. Donc Et puis, en fait, il y a encore un quatrième flot qui va être utile. Alors, c'est l'action de SO, c'est le flot de rotation. Donc, il y a un quatrième vecteur qui va être utile, c'est Z égale 1/2. Alors, que je ne me trompe pas de sens. Donc ce vecteur-là, il engendre le flot, donc l'exponentielle θz. C'est cos θ sur 2 moins sinus θ sur 2 sinus θ sur 2 cos sinus θ sur 2. Et ce flot-là, la multiplication à droite par ces matrices-là, ça revient. Ça revient, il y a un autre flot hein, sur le fibré unitaire tangent, ça revient à partir d'un vecteur, à garder le point base et juste à le faire tourner d'un angle θ. Il faut faire un petit peu attention, c'est que quand on veut tourner de θ, il faut faire agir cette matrice avec l'angle θ sur 2. Donc tourner le vecteur de θ, ça revient à faire agir par multiple. Si on prend maintenant la version algébrique, hein, ça revient à faire agir ce groupe à un paramètre par multiplication à droite. Une petite remarque, c'est que j'aurais pu. Il y a la même chose pour les graphes réguliers. En tout cas, dans le cas où ce que j'avais appelé Q est un nombre premier. Donc, l'arbre Q plus 1 régulier, il y a moyen de l'identifier hein, à GL2 sur le corps FQ. Quotienté par. Alors, ce qui va jouer le rôle de SO2, c'est le sous-groupe compact, un sous-groupe compact maximal, donc ZQ. Et puis, ce que j'avais appelé le fibré unitaire tangent à l'arbre régulier, dans ce cas-là, ça devient isomorphe, ça s'identifie à GL2 de FP, de FQ, pardon. Et puis, l'action du flot géodésique. Ça devient la multiplication à droite par cette matrice diagonale. Alors si la raison pour laquelle j'ai pas du tout exploité ça, c'est que ce qu'on a vu pour les graphes, c'est que finalement, si on s'intéresse uniquement à la dynamique du flot géodésique, c'est absolument pas nécessaire de passer par cette approche-là. Le fait de l'écrire comme ça, ça a un intérêt si on veut prendre des quotients arithmétiques, etc. Mais par contre, si la seule chose qui nous intéresse, c'est la dynamique, on ne gagne pas grand-chose à utiliser ça. Alors, cela dit, s'il y en a qui sont curieux, qui ont envie d'en savoir plus, hein, c'est très bien expliqué dans le livre de Jean-Pierre Serre, qui s'appelle « Arbre, amalgame, SL2 ». C'est le chapitre de début du chapitre grand 2. Pourquoi c'est mon livre ? Je rappelle que notre but, c'est de faire apparaître le spectre de résonance du flot géodésique. D'étudier les corrélations d'observables suffisamment régulières et de faire apparaître le spectre de résonance et de voir qu'il y a un lien avec le spectre du Laplacien. Donc le but, c'est d'étudier les corrélations du flot géodésique sur T1M et puis faire apparaître le spectre de résonance. Et donc nous, sur les graphes, on a vu qu'on pouvait le faire à la main parce qu'on peut trouver à la main des espaces de fonctions. Donc, des espaces de fonction qui sont stables par le flot géodésique. Et ça, c'est par contre, c'est dans le cas du flot dans le cas de surface hyperbolique, hein, c'est beaucoup moins direct. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'auteurs l'ont fait en utilisant la théorie des représentations de SL2. Donc il y a eu, je peux faire un petit historique des différentes approches, mais il y a eu, par la théorie des représentations. Que je vais un petit peu expliquer hein, aujourd'hui et la prochaine fois. Donc, par exemple, par la théorie des représentations de SL2R, Gelfand et Fomin, donc ça c'était en 52, ont montré que le spectre du flot géodésique sur R2 est sur L2 est absolument continu. Puis plus tard, Ratner et Moore, ça c'était dans les années 87, ont montré que il y avait une décroissance exponentielle des corrélations en faisant explicitement le lien avec le spectre du Laplacien. Donc moi, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est comment pousser un petit peu plus loin ces calculs pour vraiment faire apparaître tout le spectre de résonance. Cela dit, ce n'est pas l'approche moderne. Hein. L'approche moderne, c'est plutôt d'essayer de faire apparaître qui, je pense, est la bonne approche. C'est plutôt de faire apparaître des espaces de fonctions. En fait, on veut faire apparaître du spectre discret au départ sur L2. Hein. C'est un peu, j'en avais déjà parlé dans le cas des graphes. Sur L2, le spectre du flot géodésique est absolument continu. Mais on veut faire apparaître du spectre discret, donc il faut trouver d'autres espaces de fonctions ou de distributions sur lesquels le flot a une espèce de propriété régularisante qui va être responsable de l'apparition d'un spectre discret. Donc l'autre approche, qui est l'approche plus moderne, c'est trouver des espaces fonctionnels sur lesquels le flot a un effet régularisant. A une propriété régularisante, et ça fait apparaître du spectre discret. Alors je dirais que jusque dans les années 2000, c'était fait beaucoup par clodage. L'intérêt de cette approche aussi, de cette deuxième approche, c'est une approche beaucoup plus générale, puisqu'elle marche pour des flots d'Anosov, ou même des flots... Donc pour des flots d'Anosov beaucoup plus généraux que juste l'exemple que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc pour schématiser un peu, à peu près jusqu'en 2000, on trouvait ces espaces fonctionnels en essayant de coder le flot géodésique par une espèce de chaîne de Markov sur un graphe. Donc en discrétisant l'espace des phases, on arrivait à trouver un bon codage des trajectoires du flot et à se ramener à des choses qui ressemblaient à une chaîne de Markov sur un graphe. Et disons que depuis les années 2000 à peu près, une autre approche qui est apparue, c'est d'essayer directement de trouver des espaces de fonctions directement définis comme espace de distribution sur le fibré unitaire tangent et qui ont cette propriété d'avoir du spectre discret. Et c'est ce qui s'appelle les espaces de Banach anisotropes. Bon, je vais donner juste quelques noms, mais je vais très probablement oublier des gens. Donc voilà, Marc Policotte a beaucoup travaillé avec le codage. Peut-être le premier article où apparaissent les espaces de Banach anisotropes, c'est un article de Blanc, Keller, Liverani. Après, Viviane Baladi a beaucoup travaillé avec les deux approches. Tsuji. Fort et Sjöstrand ont donné une définition des espaces de Banach anisotropes qui reposait sur l'analyse microlocale. On va aussi citer Dyatlov, Svorsky pour les applications aux fonctions des états. Voilà, j'oublie probablement du monde. Mais disons que là, je pense qu'en fait, c'est probablement la bonne approche, cette deuxième approche, parce qu'elle est plus générale. Elle est moins. J'ai voulu m'amuser à voir ce que ça donnait, en fait, avec la. Ce qu'on trouvait, en fait, sur le spectre de résonance, directement en travaillant avec la théorie des représentations, en oubliant un peu que cette théorie plus générale avait été inventée, là, depuis 20 ans. On trouve des résultats plus précis. Mais qu'en interprétation géométrique, par contre, moins clair. Alors que quand on travaille avec les espaces de Banach anisotropes, on travaille vraiment de manière très géométrique. Alors, quel est le résultat portant sur la décroissance des corrélations ? Alors c'est là que vont apparaître les valeurs propres du Laplacien. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux surfaces hyperboliques, hein, qui n'apparaît pas dans le cas général. C'est le lien avec les fonctions propres du Laplacien, avec les valeurs propres du Laplacien. Alors un peu comme dans le cas des graphes, on introduit une reparamétrisation des valeurs propres. Donc les lambda J, ce sont les valeurs propres du Laplacien sur M. Comme j'ai supposé M compact, hein, ces valeurs propres, elles forment une suite discrète, mais infinie cette fois, par rapport au cas des graphes finis. Et il est habituel de les paramétrer, d'introduire le paramètre RJ, et un petit peu comme... lambda J est forcément réel, puisque le Laplacien, c'est un opérateur auto-adjoint, ce qui fait que RJ est soit réel, soit imaginaire pur. Donc RJ réel, ça correspond à lambda J plus grand que 1 quart, ce qui s'appelle le spectre tempéré. Et puis RJ imaginaire pur, c'est lambda J plus petit que 1 quart. Et je vais prendre deux observables, donc deux fonctions sur le fibré unitaire tangent. Et puis, on va dire suffisamment régulier. Et on va s'intéresser aux corrélations entre U et V transporté par le flot autanté, et ça c'est donc l'intégrale sur le fibré unitaire tangent de U. Il faut que je dise par rapport à quelle mesure j'intègre. Donc, dans le cas des graphes, on avait pris la mesure uniforme. Là, on va prendre la mesure de A qui est sur PSL2. Et cette mesure, elle est invariante par le flot géodésique. Ben ça, si je la définis comme étant la mesure de R sur le groupe, comme j'ai dit que le flot géodésique, c'était juste un groupe qui agissait par multiplication, ça me donne une mesure invariante. Donc là, pour répondre à une question qui avait été posée il y a 2 semaines, invariante, hein, donc ça veut dire que si j'intègre F mon sigma T, je retrouve la même chose que si j'intègre une fonction F. Et ça veut dire que ces corrélations, hein, on peut aussi les écrire comme l'intégrale de U mon sigma moins T fois V. Donc, comme la mesure est invariante, le sigma, je peux le faire passer de l'autre côté juste en changeant le signe. Donc l'énoncé est le suivant, donc je me donne un entier M, enfin un entier. Il va y avoir un reste dans ce développement, je vais donner un développement asymptotique des corrélations qui va avoir un reste. Dans le cas des graphes, on avait vu que si on prenait des fonctions suffisamment régulières, c'était en fait on avait une égalité qui était vraie à partir d'un certain temps. Là, j'ai un reste. Je ne sais pas si on peut vraiment écrire une série convergente à la fin. Donc, on va appeler ça théorème. Bon, il y a un premier terme qui correspond à la projection de U et de V sur les fonctions constantes. Et vous vous souvenez, j'ai dit que ça, c'est juste l'appariement entre les fonctions, c'est quasiment comme le produit scalaire L2, mais je ne vais pas mettre de barre sur le V. Ça, c'est parce que quand on regarde les distributions, il n'y a pas de barre, donc c'est pour avoir une notation cohérente entre l'appariement des fonctions dans L2 et l'appariement des fonctions sur les espaces de distribution. Donc il y a un premier terme, donc le terme qui s'appelle le terme trivial, qui vient de la projection sur les constantes. Ensuite, il y a une somme qui est indexée par toutes les valeurs propres du laplacien. Et c'est là, ça devient un petit peu plus compliqué pour les graphes. Pour les graphes, en fait, chaque valeur propre du laplacien est donnée lieu à exactement deux résonances du flot géodésique. Pour les surfaces hyperboliques, chaque valeur propre du laplacien elle donne naissance à une infinité de résonances du flot géodésique. Donc ça, il y a cette deuxième somme qui apparaît, qui n'était pas là dans le cas des graphes. Oui, peut-être je dois dire que ça, je peux aussi l'écrire comme 1/2 plus IRJ, 1/2 moins IRJ. Donc il y a exactement la même symétrie, hein, que RJ et moins RJ viennent ensemble, exactement comme pour les graphes réguliers. Donc là, on voit apparaître des sortes de valeurs propres généralisées du flot géodésique. Et après, il y a un état résonnant, hein, qui dépend à la fois de RJ, donc de la valeur propre, mais de l'entier M aussi. Donc appliqué à la fonction U, donc ça c'est le temps T, ça va être une distribution définie sur l'espace tangent. et puis un T étoile. Hop. Voilà, donc ça ressemble à ce qu'on avait vu sur les graphes, mais il y a une deuxième somme sur les entiers M, et en fait, chaque... Chaque valeur propre du Laplacien donne lieu à deux états résonnants et puis tout s'est décalé par les entiers M. Et ça, c'est il y a toujours ben, y a un petit peu comme ce qu'on avait vu ça. On avait vu ça déjà pour le graphe. Hein, quand R égale 0, c'est pour lambda G égale 1 quart, ça fait un cas un petit peu particulier qui va donner un. Au lieu d'avoir deux valeurs propres distinctes, au lieu d'avoir deux résonances distinctes, j'ai une résonance double et puis j'ai un bloc de Jordan. Donc cette somme-là, c'est pour lambda J différent de 1 quart. Il y a un cas particulier, si 1 quart est valeur propre, ça c'est seulement si lambda J égale 1 quart apparaît dans le spectre de ma matrice, dans le spectre de ma surface, où j'ai un peu la même chose, mais c'est un bloc de Jordan. Donc le... Je pense que par la suite, je ferai comme s'il n'était pas là. Alors, c'est à chaque fois, il y a T0 et M, T0 M étoile V, plus... Bon, on n'est pas obligé, on peut faire comme si. On peut supposer qu'un quart n'est pas valeur propre, c'est peut-être plus simple. Et puis voilà, comme c'est un bloc de Jordan, il y a un terme linéaire qui sort. Vous me dites si c'est pas lisible, hein, il y a peut-être beaucoup d'indices. Alors, et puis on avait vu, c'est les résonances qui viennent du spectre du Laplacien. Et en plus de ça, exactement comme dans le cas des graphes, il y a des résonances qui sont de nature topologique, qui proviennent de certaines... il y a des résonances de nature topologique qui venaient, dans le cas des graphes, qui venaient de certains espaces de cohomologie et qui vont être là aussi, dans ce cas-là. Alors ça, c'est... Voilà, et puis... Alors, les résonances topologiques, elles sont indexées par un entier n qui varie entre 1 et plus l'infini. Et puis, ah oui, aussi. Il y a aussi cet entier m. Puis ce qui va être intéressant de regarder, c'est la multiplicité avec laquelle apparaît chacune de ces valeurs propres. Dans le cas des valeurs propres du Laplacien, on avait dit ça apparaît deux fois. Chaque valeur propre, elle donne lieu à deux résonances, et puis ensuite chacune est répétée une infinité de fois à cause de cet entier M supplémentaire. Là, il y a une multiplicité dont l'interprétation est purement topologique. Alors j'ai une somme. Je vais ensuite expliquer. Alors en fait, voilà, ces résonances supplémentaires, elles vont venir. Alors, je ne sais pas si je vais expliquer ça aujourd'hui ou non, mais elles vont venir des sections holomorphes de la puissance tensorielle nème de ce qui s'appelle le fibré canonique. Donc, c'est les sections holomorphes du fibré canonique à la puissance n. Donc j'expliquerai un peu plus ce que c'est. Et le K de N, c'est sa dimension. Et puis maintenant, bah, à chaque fois que j'ai une... À chaque fois que j'ai un élément, que j'ai une section de ce fibré, je vais appeler, donc je vais choisir une base orthonormale de ce fibré, et chacune de ces sections va donner lieu à deux résonances. Donc le premier terme, c'était les valeurs propres du laplacien, et le terme topologique, c'est ça vient des sections holomorphes de ce fibré. Et donc à chaque fois, c'est pareil, j'ai un état résonant associé à psi indice J et à l'entier M, appliqué en U, et un état résonant dual associé à psi J et à l'entier M et appliqué en V. Et puis, alors ça c'est pour les sections holomorphes, puis j'ai la même chose pour les sections anti-holomorphes, donc c'est pour ça qu'il apparaît deux fois, c'est que j'ai la même chose avec les conjugués. Et il manque les termes d'erreur, parce qu'en fait, là, j'ai poussé. En fait, plus grand M est grand, plus je pousse le développement loin en puissance de exponentielle moins t. Donc là, j'ai décidé de m'arrêter à grand M. Et donc, il y a un terme d'erreur. À chaque fois, il y a un terme d'erreur qu'il faut rajouter partout. Donc, par exemple, là, le terme d'erreur, ça va être un grand O d'exponentielle moins t. Donc la valeur absolue de grand O de la valeur absolue de ça, 1 demi plus partie imaginaire de Rj plus grand M plus 1 fois une certaine norme de U associée à Rj et à M fois une certaine norme de V. Et puis il y a aussi une erreur du même type ici. Donc en particulier assez régulière, ça veut dire en particulier qu'il faut que toutes ces erreurs s'additionnent bien. Donc ça correspond à être dans un certain espace de Sobolev. Donc voilà, ici à chaque fois dans chacune de ces sommes, ici j'ai poussé le développement asymptotique jusqu'à l'ordre m, mais il y a un terme d'erreur qui est le terme suivant à l'ordre m plus 1. Fois de certaines normes de U et de V qui vont sortir. Alors je dis peut-être tout de suite ce que valent ces nombres, les dimensions de ces espaces de section. Ou je peux même peut-être déjà dire. En fait, donc. K, c'est ce qui s'appelle le fibré, pour que ça fasse moins peur, hein, c'est ce qui s'appelle le fibré canonique en géométrie algébrique. Et c'est simplement, en fait, notre surface hyperbolique, elle est munie aussi d'une structure complexe. Et le fibré canonique, c'est le fibré cotangent complexe. Donc c'est simplement les formes linéaires sur le... Enfin maintenant, voilà, c'est le fibré cotangent, mais si je vois ma surface maintenant comme une courbe complexe au lieu de la voir comme une surface réelle. Donc c'est pas un objet si horrible que ça. Donc les sections holomorphes de ce fibré, c'est simplement les choses qui s'écrivent en coordonnées locales complexes comme f de z dz, où f est une fonction holomorphe. Là, c'est les choses qui localement s'écrivent f de z dz. Et en fait, quand j'ai une expression comme ça, on peut le voir, si on veut, naturellement, comme une fonction sur le fibré unitaire tangent. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, c'est un sous-espace. Je peux le voir comme un sous-espace particulier de l'ensemble des fonctions sur le fibré unitaire tangent. Et maintenant, les sections. Si je prends ce fibré à la puissance n, les sections holomorphes, c'est les choses qui, en coordonnées locales, s'écrivent comme dz à la puissance n fois f de z avec f holomorphe. Et de même, donc dz, c'est une forme linéaire sur chaque espace tangent. Quand je le mets à la puissance n, ça fait un polynôme d'ordre n sur chaque espace tangent. Donc ça, je peux le voir comme une fonction sur l'espace tangent qui est polynomiale d'ordre n sur chaque espace tangent. Donc ça, c'est pas un objet si effrayant que ça. On peut le voir si on veut comme un espace de fonctions sur le fibré unitaire tangent, mais un espace de fonction avec une structure très particulière. Et il se trouve que le théorème de Riemann-Rorth nous donne les dimensions de ces espaces. Alors si n égale 1, la dimension c'est G, c'est le genre. Et si n est plus grand que 2, la dimension c'est 2n-1 fois G-1. Ça, c'est une conséquence du théorème de Riemann. Donc, le spectre de résonance du flot géodésique, ce théorème, je vais mettre théorème entre guillemets, parce que c'est un calcul que j'ai fait récemment, vraiment en reprenant toutes les formules de théorie des représentations de SL2, et c'est quand même assez fastidieux. Donc, en fait, je l'ai fait que pour ça. Si, pour ceux qui connaissent, ces termes-là, c'est ce qui correspond aux séries principales et aux séries complémentaires. C'est le terme qui vient des valeurs propres du Laplacien. Et puis ce terme-là, c'est ce qui vient des séries discrètes, donc holomorphes et anti-holomorphes. Et finalement, en fait, le seul cas où j'ai vraiment fait le calcul très sérieusement, c'est pour les séries principales. Et après, j'ai supposé que ça se passait de la même manière pour les autres, mais c'est assez fastidieux à faire, en fait. J'expliquerai comment j'ai fait le calcul, mais je ne ferai peut-être pas tout devant vous. En tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que le spectre de résonance du flot géodésique dont j'ai les exponentielles. J'ai tous ces nombres-là, exponentielle moins t plus ou moins irj plus m. Donc chacun, il apparaît, chacun chacune de ces valeurs propres, elle apparaît autant de fois que lambda j est valeur propre du Laplacien. Et puis j'ai les exponentielles moins t facteur de n plus m. Donc ça, c'est pour n plus grand que 1 et m plus grand que 0. Et la multiplicité, elle est donnée... Alors on voit que, bon, évidemment, tous ces nombres, il n'y a pas... Pour chaque n et m, ça, ce nombre-là, il va apparaître avec une certaine multiplicité, mais ensuite, il n'y a pas une unique manière d'écrire un nombre comme somme de deux entiers. Donc évidemment, il y a... Mais, en tout cas, dans la somme, ce nombre-là, il va correspondre à un espace. Alors, si n est égal à 1, ça apparaît avec multiplicité 2g. Et puis, si n est plus grand que 2, elle apparaît avec multiplicité 2, facteur de 2n-1, facteur de g-1. Et le 2, il vient du fait que j'ai à chaque fois une contribution de la série discrète holomorphe et une contribution de la série discrète anti-holomorphe. Je vais peut-être conclure en disant... Oui, alors à partir de là, on peut faire un calcul relativement amusant qui est de se demander ce que ça donne si on fait un peu formellement de calculer la trace de sigma t sans trop se demander ce que ça veut dire. Mais en disant c'est la somme des valeurs propres, du coup ça donnerait... Il y en a qu'une qui est... Oui, j'ai oublié, il y en a une qui est différente, c'est la... Il y a un aussi, il y a le terme trivial. Donc en plus de tout ça, il y a aussi un qui fait partie du spectre. Donc si on calcule la trace du flot géodésique en se disant juste que c'est la somme des valeurs propres, hein, sans trop se demander ce que ça veut dire, donc, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, je dois trouver quelque chose qui est compatible avec la formule des traces de Selberg. Donc je vais trouver 1. Après, je vais trouver somme sur toutes les valeurs propres. Donc je vais avoir exponentielle moins t 1 demi plus irj. Et puis je vais avoir somme sur m de exponentielle moins mt qui se met en facteur tout de suite. Je le mets tout de suite en facteur. Après, je vais avoir somme pour n égale 2 à plus l'infini de 2 fois 2n-1, je vais mettre tout de suite g-1 en facteur. Je vais mettre 2 fois g-1 en facteur. Exponentielle moins mt, et puis il y a la même somme qui va se mettre partout en facteur. En fait, la somme pour m égale 0 à plus l'infini de exponentielle moins mt. Et puis il y a 2g exponentielle moins t. Et puis j'ai toujours cette somme en fait qui se met partout en facteur. Et cette somme, bien sûr, c'est 1 sur... C'est une série géométrique, hein, c'est 1 sur 1 moins exponentielle moins t. Par ailleurs, cette trace du sigma t, alors pour l'instant... J'ai juste dit, faisons comme si c'était la somme des valeurs propres. Mais cette trace de sigma t, Victor Guilmin nous dit comment y trouver un sens. On appelle ça une trace bémol, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une trace régularisée. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un opérateur à trace, donc ce que je calcule, ce n'est pas une vraie trace. C'est une trace régularisée. Il y a une définition propre avec de l'analyse micro-locale derrière, mais que je ne vais pas donner. Mais disons, une autre manière de lui donner un sens, c'est de dire, donc sigma t, si je le fais agir sur les fonctions, ce n'est pas du tout un opérateur à trace, mais je peux le régulariser en convolant des deux côtés par un opérateur régularisant, de manière à ce qu'ils deviennent à trace. Et puis je fais ensuite tendre le epsilon vers 0. Alors il se trouve que bon, parfois ça converge vers quelque chose et parfois pas, mais là, quand on a un flot hyperbolique et que leur faute je prenne t non nul, Guilmin nous dit que quand on a un flot, par exemple un flot hyperbolique, il y a une limite finie et qui s'exprime comme une somme sur les géodésiques. Donc ça, c'est Guilmin 77. Il y a cette limite, en fait, ça s'exprime comme une somme sur les trajectoires périodiques du flot. Donc là, ça va être les géodésiques fermées. Je vais avoir là la période primitive, hein, donc une trajectoire périodique, comme j'ai dit plusieurs fois, on peut parcourir plusieurs fois la plus petite période. Donc gamma 0, c'est la période primitive. Il y a une masse de Dirac en donc là c'est une masse de Dirac en T, on va dire T positif. Et en général, au dénominateur, il y a un déterminant de l'application de Poincaré. Donc sur une section à la trajectoire périodique, on prend l'application de Poincaré. Donc vous voyez que pour que la formule ait une chance d'être vraie, il faut supposer que l'application de Poincaré n'a pas 1 comme valeur propre. C'est une formule qui est assez générale, hein. Enfin, il faut évidemment mettre des conditions sur cette application de Poincaré. Et dans le cas du flot géodésique sur une surface compacte, en fait, cette application de Poincaré, c'est deux valeurs propres, c'est exponentielle de la longueur de gamma et exponentielle moins la longueur de gamma. Donc si je l'applique au cas particulier d'une surface hyperbolique compacte, ça va faire exponentielle L de gamma moins 1. Donc ce déterminant, il y a deux valeurs propres, c'est exponentielle L de gamma moins 1 et 1 moins exponentielle moins L de gamma. Alors attention, tout ça c'est au sens des distributions en T, parce que vous voyez, là c'est une distribution. Donc ce truc-là, c'est vrai au sens des distributions. Cette identité, c'est au sens sur R privé de 0. Ça veut dire que si j'intègre des deux côtés le long d'une fonction test à support compact dans R privé de 0, j'ai une identité entre les deux. Alors, je vais essayer de montrer que c'est compatible avec la formule d'Étrale de Selberg. Alors là, j'ai une masse de Dirac en T, donc je peux aussi toujours. C'est aussi 1 sur 1 moins exponentielle moins T. Je vais avoir une somme sur les géodésiques périodiques orientées. Et lui je vais. Alors celui-là, je le fais sortir, comme j'ai la masse de Dirac, je le fais sortir en 1 moins exponentielle moins T. Et lui, par contre, je vais le laisser tel quel, mais ça, c'est juste pour obtenir quelque chose qui ressemble à la formule des traces. Je vais avoir exponentielle moins t sur 2, et en bas, 2 sinus hyperbolique L de gamma sur 2. Voilà, donc en supposant que j'avais le droit de dire que cette trace c'était la somme des valeurs propres, ça c'est quelque chose qui à mon avis est pas très, est un peu pénible à justifier, mais en supposant que j'avais le droit de faire ça, j'obtiens la formule suivante, mais qui est valable sur R privé de 0. Alors, il y a des termes qui vont simplifier. Ce 1 moins exponentielle moins t là, il se simplifie avec cette somme là qui est apparue, la somme sur m, ce qui est aussi 1 moins exponentielle moins t. Donc, il va disparaître là. Donc, j'obtiens somme you ça, c'est au sens des distributions. Ça veut dire que ça a un sens si j'intègre les deux côtés le long d'une fonction test en T. Ça va faire 1 moins exponentielle moins T. Celui-là, il vient de lui. Plus somme. Exponentielle moins t facteur de 1 demi plus ou moins irj. Plus 2 g moins 1 somme pour n plus grand que 2 de 2n moins 1 exponentielle moins nt. Plus 2g exponentielle moins t. Alors, est-ce que les liens avec la formule des traces, pour ceux qui connaissent la forme habituelle de la formule des traces. Alors, la formule des traces de Selberg, alors je vais peut-être, oui, il y a une autre chose qu'on peut simplifier, c'est ce exponentiel moins t sur 2, il est là et il est là, donc je vais l'enlever aussi des deux côtés, je vais l'enlever là, du coup ça va me faire un exponentiel t sur 2 et là exponentiel moins t sur 2 et là ça va me faire du moins t sur 2 2n moins 1. Là, j'ai multiplié des deux côtés par exponentiel t sur 2. Et là, ça fait moins t sur 2, qui peut aussi se regrouper avec celui-là. Alors, d'habitude, la formule des traces de Selberg, ça commence comme ça, c'est somme Alors souvent, on l'écrit sous forme intégrée le long d'une fonction test, mais c'est juste la même chose. De toute façon, c'est une égalité au sens de distribution. Donc, normalement, c'est... Alors, la valeur, il y a exponentielle t sur 2, plus exponentielle moins t sur 2, et puis il y a cette même somme, là, sur les valeurs propres. Et le terme qui a l'air différent, c'est quand on écrit d'habitude la formule des traces de Selberg, on obtient un terme qui est la transformée de Fourier de la fonction. On obtient normalement la transformée de Fourier de la mesure de Plancherel sur le disque hyperbolique. Voilà, ça, c'est la forme habituelle de la formule des traces de Selberg. Alors, exercice, c'est un calcul sur les résidus, en fait, de montrer que ça, que la transformée de Fourier de cette fonction... En fait, il faut écrire la formule des résidus à partir du pôle, des pôles de la tangente hyperbolique, de montrer que la transformée de Fourier, cette distribution, pour t non nul, elle coïncide avec cette somme-là. D'accord ? Donc, je ne le fais pas devant vous parce que j'ai déjà dépassé, mais en fait... donc ça c'est une distribution hein, donc sa transformée de Fourier c'est la transformée de Fourier d'une distribution tempérée elle a une singularité en zéro donc là avec ce calcul là on voit pas du tout ça dit rien sur la singularité en zéro parce que tout était vrai sur R privé de zéro mais exercice de calcul de résidus c'est de montrer que cette transformée de Fourier là en dehors de zéro elle coïncide avec cette somme-là. Alors après, il faut regrouper... ce terme-là, il faut le regrouper avec celui-là. Donc en fait, ces 2n-1, bon, qui sont juste Ils étaient apparus dans Riemann-Rohr comme dimension de certaines sections holomorphes de fibrés, mais ils sont aussi liés à la transformée de Fourier de cette mesure de Plancherel. Moi, je vais m'arrêter.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.